Sur la planète, du Big Bang à la société de l'information, le rythme et la musique parcourent le temps et investissent l'espace sonore. Les collecteurs de sons, anthropologues modernes, tentent de comprendre le lien entre ce phénomène et l'humanité. Bernard Lomax et son équipe accueillent chaque soir de concert les invités qui devraient leur permettre de découvrir la vérité. Radio HDR et le 106 présentent Radio Lomax, l'émission du 106.
Bonjour et bienvenue dans Radio Lomax, l'émission du 106, chaque lundi à 18h, les samedis à 11h et toujours écoutable en direct sur la web radio du 106, radio.le106.com. Aujourd'hui, la fin des nuits de l'Alligator avec les interviews de Bernard Adamus, Rod Amdala, King Biscuit et The Mystery Light.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Et ce soir, Bernard Adamus est là dans le cadre du festival Les Nuits de l'Alligator avec le contrebassiste Simon Paget. Et on va commencer tout de suite avec une chanson intitulée Le problème qu'on trouve sur l'album numéro 2. Et puis après, on se retrouvera en interview.
Le problème est pas de voir ou de célébrer, pis c'est tentant, c'est ben en dedans quand tout est long, pis l'espace meuble tout ton temps. Veux rien savoir, sinon certains appellent pas à soir, c'est pas demain. Pour un temps, m'a faire un bout, pis toi ben fais donc crissement rien. L'autre bord de la vitre, c'est loin d'être proche. Coin Logan, tu sens d'un poche. Chance qui mouille, une chance ça meurt. Une chance qu'on finit de compter les heures. Pourtant, y'a du bleu, y'a du vert. Il fait chaud, c'est même pas l'hiver. Mais pour l'instant, c'est pour toujours. Puis toujours, c'est toujours hier. T'es 1, 2 et 13, 4 et 4, t'as-tu remarqué que la nuit fait noir? À 3 et demi avec une veilleuse, pis tes tempes souhaitent dans le fond de ton lit. Mais y'a rien qui grouille, la lavabo clapote. Moi j'pense qu'il y a un monstre de bord de la porte. Une rivière qui coule, quelque chose qui pompe. Ou si t'en pas de rubber, les pieds dans le swamp. Es-tu si belle, ma décibelle? Quand le silence gronde des secondes, t'hallucines des monstres sur le coin des rues comme un disque. Golden but, faudrait que t'aies salé. Problème reste juste ben en dedans de toi. Arrête d'attendre l'automne, parce que quoi que tu bouffes ou bien que tu manges, mets le doigt-tu sur la fin qui te dérange. Tu vois-tu trop, t'as donc ben de la blême. Y'en a un qui veut, l'autre pense pas de même. Un doux de maudit quand t'as les pieds qui s'enfargent, les cœurs s'envolent, les bateaux, ça prend large. Quand j'ai aperçu l'autre bord de la rue, à première vue, je l'ai pas reconnu. J'avais la tête ailleurs, le regard à terre, je cherchais de l'air à l'ombre d'un boss scolaire. Il m'a dit salut, ça va-tu? J'avais pas quoi dire, je voulais rien que partir. J'aurais tout fait pour m'en aller, mais j'avais le cœur qui se fouillait dans le nez. Es-tu si belle, ma décibelle? Quand le silence gronde des secondes, t'hallucines des monstres sur le coin des rues, comme un disque qui goûte d'un but. Faudrait que t'aies salé, problème reste. Juste ben en dedans toi.
Radio Lomax, l'émission du 106.
Et le festival des Nuits de l'Alligator, et bien c'est aujourd'hui également avec Kelly Finnegan et Bernard Adamus qui est ici avec nous après le petit acoustique. Merci beaucoup pour cet acoustique, Bernard Adamus.
C'est un plaisir, merci.
Bonsoir à vous. Des chansons à cœur ouvert entre blues, jazz, bluegrass, chansons, cuivre et banjo de la New Orleans. Vous êtes né en Europe, en Pologne, et vous déménagez pour le Canada à l'âge de 3 ans. Premier album en 2009, Brun, qui va vous ouvrir tout de suite les portes du succès au Québec, au Canada. Qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Vous avez appris à parler et puis après?
Entre quoi et quoi, là?
Entre votre arrivée au Canada, quand vous avez 3 ans, et le premier album.
Qu'est-ce que j'ai fait entre 3 ans et 30 ans?
Oui, c'est ça.
Un paquet de niaiseries, dont aller à l'école, travailler, apprendre à faire un peu de musique, élever ma fille, je sais plus.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
Suivre l'album numéro 2 en 2012, dont on vient écouter un petit extrait en acoustique. Exact. Et Sorel Soviet So What en 2015. Ce qui nous reste du Texas, c'est le nouvel album. Il est sorti en novembre dernier. Ouais. Vous avez vendu près de 100 000 albums chez vous. Vous êtes donc très connu au Québec. Ça fait quoi d'être moins connu, on va dire, quand on arrive en France? On vient s'installer sur une scène comme ce soir ici au 106. Il y a une sorte de l'impression de recommencer quelque chose un peu, non?
Non. C'est plutôt, je le vois comme un voyage, tout simplement. J'ai pas vraiment d'ambition, là, pour être honnête, là, à me bâtir une carrière ou quoi que ce soit en France. Donc, ouais, je le prends plutôt comme un voyage, simplement.
Et alors, ça se passe bien, ce voyage?
Oui. Pour l'instant, tout se passe très bien. On est loin de la tempête de Montréal, donc c'est merveilleux.
Vous avez vécu la tempête normande, peut-être un peu le fin de la tempête normande, mais ça n'a rien à voir avec la tempête qu'on vit chez vous en ce moment.
Non, exactement.
Qu'est-ce qui se passe chez vous d'un point de vue climatique là en ce moment?
En ce moment, il doit y avoir à peu près 1 mètre de neige là, à Montréal. Ouais. Là, donc c'est vraiment c'est la catastrophe. Là.
Ça nous remet un petit peu à notre place quand nous, on commence à flipper un peu dès qu'il y a un petit peu de vent.
Exact.
Vous êtes donc deux seulement ce soir, vous qui aimez, j'ai l'impression, avoir une bande de musiciens. Ouais. Autour de vous. Il a fallu quoi? Repenser un peu les choses? Vous aimez les cuivres aussi?
Oui, on est souvent un groupe effectivement de 6 personnes, mais je fais des fois des spectacles avec Simon, puis c'est une nouvelle formule qu'on aime bien. Ça me permet d'être plus calme aussi, de ne pas avoir à tout le temps pousser au maximum pour défendre un groupe de 6. Donc, ça se passe très bien.
Ça se passe plus dans le feeling, du coup, peut-être.
Exact. Enfin, ouais.
Quoique, le feeling, c'est un peu tout le temps. Parmi les artistes que vous avez beaucoup écoutés, il y a ces artistes-là.
Les pauvres sont sur le bien-être. Les pauvres regardent par la fenêtre. Les pauvres n'y ont pas d'eau chaude.
Plume la traverse, les pauvres.
Oui.
Vous nous parlez de ce groupe et puis de cette chanson, peut-être?
Ben, Plume, c'est pas nécessairement un groupe, mais ouais, c'est un chansonnier, chansonnier québécois que j'ai énormément écouté étant plus jeune, et probablement qu'au Québec, c'est une des personnes qui m'a le plus influencé à faire de la musique.
Pourquoi?
Le langage, surtout, puis la liberté, puis c'est un des premiers que j'ai découvert qui était capable de faire du blues en français, chose qui est très rare et que très peu de gens font bien, à mon avis. Et Plume était capable de le faire en joual, en québécois, et puis à mes oreilles, ça sonnait très bien, quoi.
Ça se travaille comment, justement, de sonner bluesy en français? Ça se travaille d'une façon particulière ou...
Ben, c'est les vocables, là, tu sais, c'est ça qui est dur à mettre en évidence, là, surtout parce qu'en anglais, la musique est née avec ces mots-là. Donc, au début, c'est un peu compliqué de trouver les mêmes sons qui vont renvoyer à la même, qui vont créer les mêmes images, si on veut, sonores que la musique américaine. Donc, ça a été ma plus compliquée recherche, peut-être. Apprendre à chanter en français, mais comme si c'était de l'américain.
C'est-à-dire qu'on commence comment à composer une chanson quand on sait qu'il faut qu'elle sonne d'une certaine façon? Elle est écrite déjà ou est-ce que les mots ils vont venir alimenter comme sur une touche d'un tableau?
Ouais, c'est plutôt comme ça.
Ouais.
Ouais.
Il y a aussi, vous le citez de temps en temps, cet artiste-là. Jérémy Rémi Mourant avec ce morceau qui s'appelle Vaché. Alors lui aussi, ça reste un artiste pas très très connu, même chez vous.
Je suis étonné de l'entendre ici dans le fin fond de Rouen.
C'est grâce à vous, hein.
Ben merci bien. Ouais, Jérémy Mourant, qui s'appelle de son vrai nom Jacques Bertrand, un bon ami, quelqu'un que j'ai vu énormément souvent sur scène. Salut Jacques.
Et on a l'impression qu'effectivement, il y a le travail d'écriture et puis il y a le cœur qu'on met dans les choses. Quand on écoute chanter Jérémy Mourant, on sent qu'il y a aussi toute son âme là-dedans.
Un chanteur
quoi.
Très, très, très puissant et très honnête que j'adore beaucoup. C'est vraiment un artiste de scène, surtout incroyable.
Ça m'a fait penser aussi, moi, à cet artiste-là.
Votre mère et son mère étant fils de le père, savez-vous l'existence de ces familles de banlieue qui passent leur jeunesse à gagner un salaire à peine suffisant pour payer cette maison horrible
et cette pelouse affreuse.
Jean Leloup, Le Monde est à pleurer.
Ouais.
Alors, est-ce qu'il y a un caractère québécois un peu mélancolique, voire très pessimiste? Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que là, dans tous ces artistes qu'on a entendus, il y a de la joie, on sent qu'il y a une envolée lyrique, mais on dit des choses pas très gaies quand même.
Ça arrive, je pense, très souvent en chanson. Là. Je veux dire, on peut prendre des grands succès comme Roxanne de The Police. On parle d'une prostituée et pourtant, c'est la fête là, quand ça joue à 3h du matin. Puis je pense que n'importe qui est un peu lucide en devient pessimiste. Donc oui, Jean Leloup est quelqu'un de très pessimiste visiblement, qui aime le groove mais qui est très pessimiste.
Le blues c'est un truc qui a l'air de vous accompagner. Comment vous vous en servez de ce blues pour écrire peut-être le blues en termes d'état d'esprit?
Je sais pas si c'est vraiment l'état d'esprit. Moi, c'est vraiment c'est la sonorité là, qui m'a toujours touché. Je sais pas à quel point, moi, je suis empreint de ce blues dans mon existence, mais c'est une musique qui m'a beaucoup, beaucoup influencé. Donc, j'en ai écrit plusieurs, des maudits blues à trois accords. Mais je saurais pas quoi répondre.
En même temps, il y a quand même eu un break de 2 ans parce que vous étiez fatigué des tournées, de la musique. Ouais. Vous êtes parti en promenade pendant 5 mois aux États-Unis. Vous avez vécu l'aventure sur la route. Vous aviez un point de chute. C'était quoi ce voyage?
C'était la liberté puis la solitude, là, tout simplement. J'avais besoin de décrocher. Puis voilà, c'est ça que j'ai fait. J'ai souvent voyagé aux États-Unis, j'ai travaillé aux États-Unis, mais j'avais comme le goût de refaire ça d'une autre façon, puis de prendre plus mon temps.
Il y avait trop de monde dans votre vie à cette époque-là? Trop de monde autour de vous? Trop de mouvements?
Non, il y avait juste trop de boissons, il y avait trop de fêtes, ouais.
Il fallait faire un vrai break.
Exact.
Votre album s'intitule « Ce qui nous reste du Texas après ce voyage aux États-Unis ». Mais vous êtes passé par la Nouvelle-Orléans quand même ou pas?
Oui. Oui, j'ai un très bon ami qui habite à la Nouvelle-Orléans, donc je me suis arrêté là-bas un peu plus qu'un mois, en fait, à vivre cette ville.
Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
C'est fascinant.
Ouais.
Ouais, quand on est musicien, c'est sûr, c'est fascinant. Il y a de la musique live à tous les jours, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. C'est vraiment une très petite ville, Nouvelle-Orléans, et étonnamment, ça existe nulle part ailleurs sur la planète qu'il y ait une telle concentration de musiciens dans un si petit quartier.
Ça vous a donné envie d'attraper votre guitare à nouveau?
Je sais pas, ça m'a juste fait du bien de pouvoir autant en écouter à tous les jours, puis que ce soit tous les soirs excellent, quoi.
Et le fait de venir jouer en France, c'est aussi l'occasion, j'imagine, de laisser à distance la fête, de se dépayser comme ça. Ça permet aussi de se ressourcer, quoi, non?
Pas vraiment, parce que c'est quand même de l'ouvrage. Là, on fait relativement beaucoup de routes. Donc, on a tout le temps des balances de son et un concert et des gens à rencontrer. Puis le lendemain, on remballe puis on repart. Donc, c'est pas très reposant tout ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est aussi ce qui vous avait fait faire un break, j'ai l'impression, moi. Cette espèce d'enchaînement de choses quand on est en tournée comme ça. C'est vrai qu'il faut l'assumer aussi. C'est pas toujours évident, quoi.
Ouais, c'est un mode de vie. Mm. Ça, c'est sûr. Puis c'est pas donné à tout le monde. Puis moi, je suis pas un ange, je l'assume, mais je suis pas indestructible non plus, là.
Alors on se disait avec Manu Hotmer qui est derrière là, en écoutant vos chansons, que finalement la chanson française elle se faisait au Québec finalement en ce moment. Une qualité d'écriture assez dingue, avec un flow assez étonnant. On avait évoqué avec le groupe hip-hop Dead Obies, lorsqu'ils étaient venus nous voir ici, le skank, mélange d'anglais, de créole, de français. On a le joual, français québécois populaire.
Ouais.
Votre langue du coup elle est plus riche que le français d'origine aujourd'hui, non? Elle permet plein de choses quoi.
Bah, je sais pas, c'est les plus riches, c'est juste, c'est notre couleur, c'est l'accent qui est propre au Québec, tout simplement. Est-ce que c'est plus riche? Je ne saurais dire, honnêtement.
Mais dans l'écriture, vous avez forcément plus de mots à portée de main, moi j'ai l'impression. Plus d'expressions, plus de...
À cause qu'on utilise le franglais souvent?
C'est ça, la notion de créolité qui permet d'attraper des mots et de les transformer, de jouer avec.
Ouais, ben c'est sûrement un bon point positif, mais bon, je le réalise pas dans le sens que c'est ma langue maternelle ou presque là, donc j'ai de la misère à l'intellectualiser comme ça, mais fort probable.
Et le fait de la faire rouler aussi dans votre bouche, parce que il y a un vrai flow dans vos chansons des fois.
Ouais, j'aime beaucoup le rap.
Ça, vous l'avez travaillé, j'imagine aussi.
Ouais, j'ai toujours aimé le rap, puis j'essaie d'en faire à ma façon. Être verbomoteur, c'est très satisfaisant à livrer comme performance. C'est assez demandant, mais ouais, il y a quelque chose de très satisfaisant à faire ça.
Et on parlait de créolisation tout à l'heure, dans L'Erreur, le morceau, alors,
ouais.
Vous citez Prévert Gainsbourg, mais vous chantez aussi que vous vous êtes perdu dans votre promesse créole.
Ouais.
C'est quoi cette promesse créole?
C'est personnel.
C'est personnel?
Ouais.
Ça n'a rien à voir avec la langue pour le coup?
Non.
Non. Vous dites avec ce disque, j'ai peur qu'on me trouve trop sincère. Pourquoi on vous reprocherait ça? Au contraire, non? Vous avez peur qu'on vous trouve trop sincère, que vous disiez trop de choses?
Des fois, je trouve que je me livre trop, tu sais, les gens n'ont pas nécessairement, parce que mes chansons sont, oui, très sincères, mais sont très proches de moi, donc je donne beaucoup d'informations sur ma vie quasiment privée et personnelle, puis ça, des fois, ça m'énerve, c'est comme une drôle de balance où des fois, je le sais, puis des fois, je sais que c'est, entre guillemets, payant, puis des fois, je me dis, c'est trop.
Il faut arriver à trouver une frontière là-dedans?
Oui, ben,
mais vous
c'est libre
pas
à chacun, là, mais oui, des fois, je trouve que j'exagère, tout simplement.
C'est-à-dire que sur votre entourage, ça peut être compliqué à vivre avec votre entourage, par exemple?
Oui, c'est souvent compliqué parce que je m'engueule souvent avec des amis sur lesquels j'ai écrit des chansons, puis ils sont vraiment pas d'accord très souvent avec les paroles ou qu'est-ce que je raconte de eux. Donc ça, des fois, ça fait des flamèches. Là.
Bon, bah après, il faut leur expliquer que c'est de l'art, tout ça, après.
Oh ouais, je sais, mais bon. Ça reste que je parle d'eux, puis des fois, ça les touche, quoi.
Bon, on va terminer avec le hockey, parce que vous aimez le hockey, je crois. Hein.
Ouais.
On a ici à Rouen la meilleure équipe de France.
OK.
En fait, les Dragons de Rouen, ils jouent la finale de la Coupe de France le week-end prochain à Paris. Ils sont troisième du championnat. Ils jouent contre le deuxième Angers ce soir. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce sport-là, le hockey?
La rapidité, la force, l'exécution, tout. Je trouve que c'est un sport flamboyant.
Ça vous va bien, ça, j'ai l'impression?
Ouais. Je ne suis pas un bon joueur de hockey, là, mais je trouve ça très impressionnant. Parce que ça va vite, le hockey. C'est pas... C'est plus complexe que façon de parler le basketball ou courir après un ballon. Là. Je sais que c'est des terriblement bons athlètes, ceux qui jouent au foot aussi, évidemment. Mais il y a quelque chose dans le hockey qui est très brutal aussi, que j'adore.
Mais non, mais je parlais de vos chansons. Ça serait presque une définition de vos chansons, un peu concise, forte,
ouais.
Quelquefois même brutale.
Merci.
Voilà, vous faites de la chanson comme vous faites du hockey, sans doute, comme vous feriez du hockey. Merci d'avoir été avec nous, Bernard.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Un plaisir.
Radio Lomax.
Ce soir, c'est la dernière nuit de l'Alligator aujourd'hui, ce soir, donc ici au 106 avec The Mystery Lights, King Biscuit et Rod Amdallah. Rod Amdallah qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous, merci d'être là. Un artiste qu'on découvre et qui vient d'Atlanta, au sud des États-Unis, entre l'Alabama et la Caroline du Sud, où il aurait écumé tous les bars de la région avec sa musique, entre blues, du Mississippi, garage et soul, avant d'arriver jusqu'à nous ce soir. Premier EP en 2014. Alors, votre histoire avec la musique, elle démarre tôt. À quel âge est-ce que vous commencez à chanter et à jouer de la guitare?
I started around 17.
Guitare à 17 ans.
grâce à quelqu'un qui s'appelle Sean Costello.
Dont on va reparler, ouais.
Ouais, qui était dans l'univers du blues, alors qu'à l'époque, il était plus côté punk. Et grâce à cette personne, il a fait évoluer plutôt vers le blues.
Et donc, à cette époque-là, forcément, vous étiez toujours dans cette région d'Atlanta. Comment vous pourriez nous parler de cette région ?
Atlanta's got a great music scene, and just the South in general has got amazing for, you know, R&B, soul.
Vraiment, la scène musicale d'Atlanta, elle est extrêmement riche, avec beaucoup de variétés, du R&B, du punk, du blues, tout ça. Et puis, à cette époque, il était encore dans son move de punk, et puis bah, après il s'est déplacé vers New York.
Et c'est vrai que vous avez écumé tous les bars du sud-est des États-Unis pour jouer?
Every possible bar, no, but almost every major city. But no, I'd like to play every bar, that'd be awesome. Cool, especially the dive bars.
Ça serait hyper chouette de pouvoir jouer tous les bars, mais pas tous les bars, mais toutes les grandes villes du sud.
Quel était le contexte de ces concerts-là dans les bars? Il y avait un contexte particulier, une ambiance particulière? Comment est-ce que vous pourriez nous décrire ça?
I'm just playing locally in Atlanta and then touring. I started touring a lot when I was...
Il a commencé à 18, 19 ans, déjà s'étalé en Floride, parce que la région, elle est quand même assez immense. Et puis il adore être en tournée, créer, rencontrer des fans, encore créer plus de moves dans cette région-là.
On le disait, à 17 ans, vous partagez la scène avec des artistes du sud-est des États-Unis, comme Sean Costello. Ou encore un des mentors de Jack White. Donc c'est Sean Costello et Dexter Rambeber. Qu'est-ce que vous avez pris à proximité de ces gens-là? On a entendu tout à l'heure que Sean Costello notamment a été vraiment quelqu'un d'important pour vous. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces gens?
Oh man, a lot of inspiration. I mean,
l'inspiration.
A lot of inspiration. Especially Dexter Rahmweber. Dexter Rahmweber is like just a phenomenal, very original artist.
On dirait l'inspiration à l'extrême, le personnage, la musique, tout ce qui allait autour. Il a parlé d'un film qui lui a aussi beaucoup inspiré.
And the film, it was about kind of the music careers of those people.
It was, yeah, it was about mostly the music and art of Athens, Georgia, in the 80s. So I guess mid to late 80s, maybe.
Donc il y a un film qui s'appelle Inside Out Athens.
Athens, Georgia, Inside Out.
Athens, Georgia, Inside Out, qui était un peu l'histoire de tous les gros groupes des années 80 à Athens, Georgia, qui lui a aussi beaucoup appris.
Alors, il y a un EP qui date de 2014, Think About It. Depuis 2014, vous vous êtes contenté de faire des concerts ou il y a eu d'autres productions? En tout cas, moi, j'en ai pas vu.
Oh man, well, I was in a band called the Legendary Shack Shakers from.
Il était quand même pendant 5 ans avec un groupe qui s'appelle Legendary Shack Shakers, dans un move de groupe. Et puis en 2014, effectivement, il a sorti son EP. Il est en train de encore juste faire des tournées. Et puis ensuite, il est en projet créatif là. Il est en train
d'écrire.
Ouais, ça se construit en ce moment.
Alors justement, il paraît que vous aimez raconter des histoires sombres dans vos chansons. Quelle histoire vous allez nous raconter, par exemple, ce soir?
So apparently, you like to tell dark stories. Are you going to be telling any dark stories tonight? Oui, en effet,
je ne sais pas. I'm not sure. It just matters a lot of.
Il sait pas ce soir si ça sera aussi dark, mais effectivement, dans le passé, dans le blues au début du siècle, dans les 1900, effectivement, il y avait quand même des ballades qui racontaient des meurtres, des faits assez sombres.
Et de ça, il s'inspire aussi.
Oui, mais peut-être pas ce soir.
Juste peut-être une dernière question. J'ai vu que vous aviez essentiellement des musiciens français avec vous sur scène ce soir. Comment est-ce que vous expliquez ça?
Oh yeah, it's great. It's awesome.
They're awesome. Ils sont super.
Mm-hmm. They're a great band. They're great dudes. They're in a band called Weird Omen.
C'est un groupe qui s'appelle Weird Omen de Limoges. Ils ont quand même une petite histoire ensemble. Ils ont déjà joué ensemble. Et comme ça fait déjà une semaine, ils se préparent à ce concert pour se préparer pour leurs morceaux. Et comme ça, ils peuvent se rejoindre sur scène pour jouer ces morceaux.
Merci Radam Nala d'avoir été avec nous. Vous ouvrez ce soir les dernières nuits de l'Alligator ici au 106 pour cette année. On va écouter The Last International et puis ensuite ce sera au tour de King Biscuit de s'installer à votre place. Merci à vous d'être venu. King Biscuit qu'on connaît bien dans nos contrées, nous nous étions déjà croisés dans ce studio à l'occasion d'un concert et de la sortie du premier album Well Well Well. À cette époque déjà, la formation initiale avec Fred Joannet au violon en duo était en cours de mutation. La mue est désormais terminée, désormais King Biscuit, c'est Tatiana Mladenovic à la batterie et à la voix qu'on a aussi croisé dans ce studio avec son projet solo ou avec Bertrand Belin. Elle a également joué avec Émilie Loiseau ou Théo Ecola. Et puis Joanne Guidou au clavier, à la mandobox, à la voix qu'on connaît moins. J'ai vu qu'il avait participé à quelques projets, joué avec un des membres de Steppenwolf et qu'il possède son studio entre ville et campagne. Quel constat vous avez fait avec Fred Joannet, Sylvain, quand vous avez décidé la séparation? Fred Joannet, il était plus dans les musiques, on va dire, folk.
Ouais, c'est plusieurs choses qui se sont mélangées parce que forcément, c'est jamais une seule chose. Déjà, on a beaucoup joué ensemble et je pense qu'il y avait aussi l'envie de sa part d'aller voir ailleurs parce qu'on était sur un rythme assez fou où en fait on faisait les concerts, on avait monté aussi un spectacle jeune public qui a beaucoup tourné, plus des actions culturelles. Enfin, il y a un moment, King Biscuit, pendant 3 ans, on a quasi fait que ça, quoi. Ouais. Donc il y a eu aussi l'envie d'aller voir ailleurs. Moi, j'avais envie de choses plus électriques. Et c'est vrai que Fred, il a ce côté où pour lui, les musiques trad ou les musiques qui s'enregistrent, elles s'enregistrent là, tout de suite. Mmh. Il a vraiment ce truc-là. Et moi, j'avais envie de rentrer dans des choses qui sont plus de l'ordre de la production. Moi, je peux me passer 10 minutes, voire beaucoup plus, sur un réglage de délai. Et ça lui passe au-dessus.
Alors, la production, effectivement, on sent sur cet album. Moi, j'ai pu écouter que deux morceaux parce que l'album sort le 28 février.
Il sort le 28 février, ouais.
On va y revenir. Il y a dans les deux premiers morceaux du nouvel album un pas de plus dans une forme d'expérimentation, on va dire, qui cherche à s'extraire du limon du delta du Mississippi. Ouais. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour la création de ces nouveaux morceaux? Comment est-ce qu'ils sont nés finalement?
Moi, c'est des morceaux que j'ai écrits au fur et à mesure. Après, c'est vrai qu'on avait fait un premier EP, puis l'album dont tu parlais, là, Well, Well, Well. Et tous ces concerts, toutes ces choses-là. Et en fait, moi, j'avais envie aussi d'aller ailleurs. Après avoir passé 3-4 ans dans les pas d'Alan Lomax et de toutes ses musiques, j'avais pas envie de faire un Well, Well, Well bis. Mm. Et finalement, tous ces morceaux, à la base, je les ai écrits guitare-voix. Et donc, du coup, pour certains, si on revient à ça, il y a peut-être un peu ce truc-là de Mississippi, de trucs un peu blues. Mais après, j'avais envie de l'ancrer dans quelque chose plus du 21e siècle aussi. Et du coup, de nous, de ce qu'on est, nos influences. Et du coup, de produire un peu plus les choses.
Alors, donc, ce nouvel album arrive à la fin du mois. Il est intitulé Hammer Heat, toujours avec la clique des vibrants défricheurs pour trouver les dates. Nico Dio, l'artiste normand pour la réalisation du premier clip. John Parrish à la réalisation. John Parrish, c'est un travail sur les albums de 16 Horsepower, PJ Harvey, Hills, Tracy Chapman, Arnaud, ouais, Dominica, ou encore Giant Sand. Un mot sur ce producteur qui est devenu une sorte de parrain, garant d'un certain son, on va dire.
En fait, nous, avec ce deuxième album, au début, c'était un peu, on va dire un peu un rêve. On se dit, bon, scénario A, B, C, ce serait quoi le mieux, quoi. Et en fait, on a eu la chance incroyable que tous les scénarios en tête de liste sont arrivés. Et en fait, moi, je connais des musiciens qui jouent avec lui, donc j'ai pu rentrer en contact par ce biais-là. Et en fait, il a accepté. Voilà, tout simplement.
Et comment
et puis après, on s'est après c'est comme c'est des anglophones, il y a des c'est très concret et voilà, il y a pas de ruse ou de trucs, voilà, tu te mets d'accord sur un planning, sur des finances, sur tout un tas de choses. Je pense que lui de toute façon, il avait écouté et je sais qu'il accepte pas tout, donc c'est pour ça qu'on était content qu'il le fasse. Et puis ça a mis un certain temps à se mettre en place parce que c'est quelqu'un qui est très occupé, nous-mêmes Tatiana, Johan et moi on l'était pas mal. Et on s'est retrouvés à partir de semaines à Bristol et dans un super studio, et puis à bosser avec lui pendant 2 semaines. C'était un peu un moment un peu suspendu, c'était un peu fou, hein, parce que du coup, ça s'apparente un peu à, je sais pas, comme un rêve de gosse, quoi. C'est vrai que moi, Low Estate de 16 Horsepower ou des albums de PJ Harvey, pour moi, c'est vraiment des trucs qui étaient un peu des disques de chevet. Et de me dire que j'allais pouvoir passer 2 semaines à faire mon disque avec ce gars-là, c'était un peu...
Et comment on arrive justement à dépasser, peut-être l'appréhension qu'on peut avoir à se retrouver face à un tel personnage? Est-ce que c'est lui qui calme le truc?
En fait, non, je m'étais rendu compte, pour tout dire, avant de le contacter lui, j'avais fait un truc encore plus fou et j'avais réussi à contacter Timber Timbre en laissant des CD dans des festivals où il jouait, et moi aussi, avec des lettres, des machins, j'avais fait un peu mon groupie. Et il m'avait répondu. Et je sais pas comment ça s'est passé, mais au bout de 4-5 mails où justement on commençait à discuter, etc., zéro nouvelle. Et on a dû trouver une autre parade. Mais en fait, par ce genre de truc, je me suis rendu compte que c'est des gens comme nous. Juste des fois, ils sont d'accord, pas d'accord, ils font le job, ils font bien le job. T'as aussi ce truc anglophone qui est quand même très direct avec ça, qui est des fois beaucoup plus simple que nous qui mettons beaucoup d'affect ou d'autres choses. Ces gens-là, ils sont dispo, quoi, s'ils ont envie.
Et qu'est-ce qu'on va chercher chez John Parrish, par exemple?
Je pense que ça nous a permis de donner une unité au disque, de faire tout un voyage comme ça, un peu fou. Et puis, c'est une expérience, parce que c'est... Des fois, on essaie de trouver des recettes ou de se dire que c'est parce qu'il a posé ce micro qu'il a fait tel ou tel truc que tout d'un coup, ça change tout. Et en fait, c'est pas vrai. Et l'expérience d'un gars comme ça, qui a 50 ans, tu vois, de production, de ses disques, d'autres choses, c'est que en fait, il sait juste ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Et que des fois, c'est infime, mais tout d'un coup... Parce que des fois, on avait beaucoup travaillé le disque. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on était sur un morceau, on enregistrait tous les trucs. Et puis, une fois qu'on avait tout enregistré, on faisait un peu un petit bilan avec lui. On voyait ce qu'il nous proposait. Du coup, il y avait tout ce boulot-là. Et des fois, il restait dans le canapé, il écoutait, il faisait les trucs. Et tout d'un coup, il se lève à la console, console analogique, super truc. Et puis, paf, il bouge les boutons, il dit, elle est où la batterie, il fait quoi là. Et puis, en fait, t'as l'impression que ta pierre un peu brute, tout d'un coup, tu sais pas trop ce qu'il a fait, parce qu'il a pris juste ce qui était là, mais tout d'un coup, plaf, tu vois, il te l'a taillé, et du coup, c'est super classe, quoi. Et en même temps, ça, c'est infime, mais je crois que c'est ça l'expérience, tu vois, de quelqu'un qui tout d'un coup sait faire.
Et du coup, on se dit, ce morceau, il prend cette tête-là, c'est incroyable.
Ouais. Alors, en fait, il y a des morceaux où finalement, il n'y a pas eu trop de chemin, Et il y a quelques morceaux où, pour le coup, il y a eu vraiment un énorme chemin. Et puis après, ce qui est génial avec lui, c'est qu'en fait, il ne nous a pas lâchés. Ce qui fait que quand il a fallu discuter du mix, il a été là tout du long. Quand il a fallu discuter de l'ordre des morceaux, il était là. Pour du coup, le mastering, c'est pareil. Et la sortie de disque qu'on va avoir la chance de faire au Nouveau Casino au 15 mai, il sera là avec nous. Il nous fait le plaisir de venir jouer et de partager la scène.
Ça veut dire que ce qu'il a fait avec vous et cette musique le touche.
Je pense, il est vraiment tellement sympa avec nous que je pense pas qu'il fasse ça avec tout le monde, mais en tout cas il peut se le permettre, je sais pas, mais en tout cas ouais, c'est super.
Alors King Biscuit, on l'a dit dans d'autres interviews ici même, on ira les réécouter, mais effectivement ça fait référence à une émission de radio qui parle de blues, une des plus vieilles émissions de radio aux États-Unis, donc il y a ce côté un peu muséal aussi dans cette radio. Quand on va dans cette radio, on voit qu'il y a des photos un peu partout de bluesmen, et justement on se dit, quand on connaît l'histoire par cœur comme vous la connaissez, parce que vous avez travaillé tout ça avant d'en arriver à cet album, qu'est-ce qu'on et qu'on veut pousser le truc justement dans une forme de modernité, comment est-ce qu'on et tout en gardant une forme d'authenticité, comment on fait pour garder ce fil là justement de l'authenticité de...
Bah, il est plus ténu maintenant, ce fil. On est quand même un peu plus dans la Tamise que dans le Mississippi, hein, c'est sûr. Après, c'est vrai que là, ce disque-là est assez différent des autres, mais je pense que c'est le propre de toutes les évolutions des groupes. C'est pas dit qu'après, on revienne à des choses peut-être plus roots ou d'autres. En fait, je crois que j'ai réussi à m'affranchir de ce truc-là, parce que pendant longtemps, il y avait un truc de légitimité, de se poser des questions, est-ce que je le fais bien, le machin, etc. Et je crois que ce que m'ont d'ailleurs beaucoup permis Tatiana et Johan, c'est un peu de m'affranchir de tous ces trucs-là, et de dire, de toute façon, moi, j'ai ça en moi, parce que je l'ai joué, j'adore cette musique, et en fait, au bout d'un moment, on se pose plus la question. Et du coup, ça transpire là où ça doit transpirer, mais par contre, nous, on fait ce qu'on a à faire, et on va pas se dire si c'est bien ou si c'est pas bien, ou si on va avoir le tampon, je sais pas, King Biscuit Time ou je sais pas quoi. Pour le coup, là, on s'en fiche complètement. Ce qui fait que peut-être il y a des gens qui vont moins s'y retrouver, ça, je sais pas. Mais
on sent toujours cette patine bluesy,
de toute façon.
Elle est là. Oui, mais c'est vrai qu'il y a on sent un peu.
C'est plus lointain. Ouais,
ouais, c'est ça. Ouais, on sent dans la production une certaine forme de modernité. Et puis surtout une vraie dose d'expérimentation. Vous êtes lâché en toute liberté, finalement, sur cet album, j'ai l'impression.
Ouais, alors c'est drôle, moi, je sens pas tant d'expérimentation que ça, mais peut-être au niveau du studio. Je sais pas, du coup, je pense que c'est la musique la moins expérimentale que j'ai fait de toute ma vie.
Alors moi j'ai écouté Lay Down et Rooftop. Alors par exemple, on entend dans Rooftop la Nouvelle-Orléans, le tuba, etc. Mais on est aussi dans des rythmiques avec des claviers, un peu inquiétant par moment. Enfin, il y a quand même quelque chose là qui est pas complètement la Nouvelle-Orléans et qui est aussi un peu autre chose.
Oui, quand tu veux dire expérimentation de mélange des genres, effectivement. On s'est vraiment pas posé la question. Par contre, un truc qui nous a guidés tout du long et que Tatiana nous a amené, et pour le coup, ça c'est vraiment génial, c'est d'essayer de faire chanter les choses à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est pas juste la ligne de chant qui va chanter, mais c'est la ligne de guitare, la ligne de basse, la deuxième, etc. À chaque fois, toutes les choses qui sont jouées, c'est des choses qu'on peut chanter. Et ça, je pense que c'est une grosse différence par rapport à avant, où on était dans quelque chose où c'était plus de la trance, c'était plus organique, et il y avait moins le côté horizontal. C'était un peu plus brut. Et là, c'est peut-être quelque chose de plus sophistiqué.
Ouais. Avec des aspects de trance qui sont là aussi.
Ouais, alors il y a toujours de la trance, effectivement, mais c'est moins...
Enfin, en tout cas, dans ces deux morceaux que j'ai pu entendre.
Ouais, c'est moins brut. Ça, c'est sûr. Ouais.
Pour entendre l'ensemble de l'album, ce sera donc le 28 février prochain.
Absolument, ouais.
Hammerhit.
Ouais.
Eh ben, on attend ça avec impatience. Et puis donc, la release party à Paris, c'est ça?
Le 15 mai, ouais. C'est ça.
Quelle est la salle?
Nouveau Casino.
Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Choigny, d'avoir été avec nous. King Biscuit, pour la deuxième fois au Nuit de l'Alligator. Ouais. C'est assez rare.
C'est génial.
C'est bien.
Ouais, nous, on est super contents.
Donc, sur la scène du 106 dans quelques instants.
Well, Radio Lomax.
Et on accueille The Mystery Light, troisième groupe donc à venir nous voir dans cette dernière soirée des festivals des Nuits de l'Alligator, au 106 ici à Rouen. The Mystery Light, né en Californie à Salinas, est désormais basé à New York, plonge ses racines dans le garage psyché des années 60, se roule par terre comme dans le punk des années 70. Signé par la division rock du label Daptone, ils vivaient tous ensemble dans le quartier de Ridgewood, dans le Queen, lors de leur passage en 2017 ici même. Le dernier album est intitulé Too Much Tension, avec un beau collage pour la pochette, très 70 aussi ce collage d'ailleurs. Louis et Mike sont avec nous, bonsoir à tous les deux.
Hey. Good evening.
Hey.
Quoi de neuf alors à New York alors?
Music?
En termes de musique?
If you want.
Ah, yeah. Si vous voulez.
Yeah, I mean, around the corner from us.
Ils ont un pote qui a ouvert un bar qui s'appelle Jonathan Tobin, qui s'appelle TVI. Et c'est à 5 minutes d'où ils habitent. C'est maintenant un des scènes premières en Queens, ce qui est super cool parce que c'est juste à deux pas de chez eux.
C'est leur pote et c'est devenu presque un camp de base, j'imagine. Mais alors, vous êtes vraiment fatigué de vivre en ville?
Il y avait quand même cette logique parce qu'ils notent quand même un certain climat politique forcément qui est assez intense à New York. Effectivement, ça, c'était un titre d'une chanson, mais c'est vraiment ça. Il y a de la tension, il y a des gens qui sont un petit peu plus stressés, un petit peu plus tendus. Et donc, du coup, forcément, ce petit titre, ça reflète un peu, c'est ce qui se passe
à New York.
À New York, avec ce climat.
C'est plutôt une ville détendue, a priori, normalement.
C'est un peu le climat politique du moment aussi qui fait qu'ils sont un peu tendus. Et forcément, l'art sur la pochette, c'est cet art un peu chaotique, un peu...
Sur le collage de la pochette.
Mm-hmm.
Vous nous racontiez la dernière fois que chez Daptone, il y avait une sensation de famille, de bienveillance, de proximité et ce besoin de sentir l'âme et l'authenticité des choses. Est-ce que de fréquenter Daptone, ça vous a un peu transformé ou est-ce que ça a façonné votre musique d'une manière ou d'une autre?
It's cool. Daptone is a really tight little.
C'est vraiment ce sentiment de famille. Tout le monde est ami. S'il y a vraiment ce sentiment de se sentir chez soi et physiquement, c'est dans une maison et puis il y a peu de personnes, donc on se sent vraiment chez soi.
Ça peut faire redescendre un peu la tension. Suicide, un morceau qui date de la même période, 1977, enregistré à New York. Et la même année, toujours à New York, Television enregistre son premier album. Est-ce que c'est une période particulière pour vous, charnière? Qu'est-ce qu'elle portait en elle, cette période qui vous parle tant?
Yeah, in high school, our old bass player gave us a book.
Donc au lycée, il y a quelqu'un qui les a offert un bouquin qui s'appelle Please Kill Me. Et c'est un bouquin qui retrace tout ce qui est musique dans les années 70 à New York, qui était vraiment le moment parti pour découvrir toutes ces choses qui sont encore des très grandes influences pour eux aujourd'hui.
C'était une grande période musicale à New York à cette période-là, où on inventait vraiment plein de choses. Et en plus, je crois que vous étiez au lycée ensemble, puisque vous êtes connus très très tôt. Donc j'imagine que ça a marqué tout le monde. Demain, vous jouez à Paris. C'est la dernière date d'une tournée européenne d'une vingtaine de concerts. Et puis ensuite, c'est retour dans votre ville. Vous jouez à Brooklyn le 19. Qu'est-ce qui vous manque le plus de New York que vous allez pouvoir retrouver dans 4 jours?
Oh, Mexican food.
Mexican food, rest.
La bouffe mexicaine. Et là, je suis d'accord.
Ok, il faudra nous en ramener la prochaine fois.
Merci. You gotta bring us some next time.
Merci beaucoup.
Actually, the Mexican food in New York isn't very good. But there's a couple of good spots.
You can get micheladas and chorizo tacos. That's all. It doesn't matter.
My cousin Teddy here makes really good food. So
c'est le cousin
maybe
qui fait de la bonne bouffe mexicaine. Hein. C'est ça qui leur manque.
Merci beaucoup. Thank you. Radio Lomax, c'est fini pour aujourd'hui. Les concerts cette semaine au 106. Mercredi 4 mars, The Lord of Altamont avec Kumusta. Jeudi 5 mars, concert de Caravan Palace avec Slim and the Beast. Et vendredi, concert de Generation pendant que dans le club se produira Sebado avec Dearly Beloved. À la semaine prochaine.